BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On donne le coup d'envoi de BFM Patrimoine. On vous accompagne pour 2 heures d'expertise liée au monde de vos placements. Comment gérer au mieux votre patrimoine? Nos spécialistes sont sur le pont et on file d'abord à la Bourse de Paris pour y retrouver Aude Kersulec qui nous attend au sein de cette salle de contrôle du CAC. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la semaine et le dernier trimestre de l'année débutent mal.
Et oui, lundi matin, rouge sur les tablettes, moins 1,5% pour le CAC 40, 5671 points. On revient vraiment pas loin des plus bas annuels atteints la semaine dernière. On est bien pessimiste ce matin, après un week-end mouvementé sur les marchés avec une nouvelle crainte, celui d'un risque financier, risque bancaire. Et si une grande banque d'investissement faisait faillite, voilà ce que les investisseurs se disent, avec Crédit Suisse qui est vraiment au centre de toutes les préoccupations. La deuxième banque suisse est en ce moment en train de faire une revue stratégique jusqu'à la fin du mois. Sa capitalisation boursière ne cesse de s'écrouler depuis quelques mois et elle a un grand besoin de fonds propres, de lever des fonds, ce qui se ferait dans des conditions très chères vu sa situation. Et c'est ça qui inquiète les marchés parce que bien si elle n'y arrive pas, c'est une banque qui est considérée comme systémique. Donc si elle va mal, cela entraîne une forte partie de son secteur, du secteur bancaire avec elle. Et ce matin, on a donc le secteur bancaire qui souffre énormément. L'indice Stoxx Services Financiers, c'est lui qui recule le plus en Europe, moins 2%. Et même à Paris, on le voit, Société Générale qui perd 3,3% à 19,74 €, ou encore BNP qui perd 2,8% à 42,27 €, et Crédit Suisse en Suisse qui perd déjà plus de 7,3%. Donc forcément, ça ne va pas régler ses problèmes de perdre encore autant ce matin sur son titre. À la hausse, Total Energy est plus 1,3% dans le sillage des cours du Brent qui ont pris 4% depuis hier. On est à 88,7 $ pour le Brent et presque 83 $ pour le WTI, alors que l'OPEP Plus, qui se réunit mercredi en physique, a fait savoir, selon des sources, que le cartel devrait débattre d'une baisse importante de la production, plus importante que ce qui était attendu. On pourrait parler de 1 million de barils par jour en moins. L'objectif, ce sera de soutenir les cours. Du côté des mid-cap, Bonduel a publié ce matin son bénéfice annuel qui est en chute nette, 38% inflation, mais aussi difficultés, notamment en Amérique du Nord, et la marge opérationnelle qui reste vraiment très très mince chez Bonduel, 2,4%, et qui ne devrait pas tellement s'améliorer dans l'exercice à venir. Voilà ce qui ne plaît pas tellement au marché. Bonduel qui perd 1,7% à 11,12 €. Et du côté des marchés des devises, on a l'euro qui vaut ce matin 98,06 € précisément contre le dollar. À noter que la livre se reprend ce matin à 1,12 $ après l'annonce du ministre des Finances britannique de ne pas supprimer la dernière tranche d'impôt sur le revenu au Royaume-Uni. Donc pour ne plus inquiéter autant sur ce budget qui avait été annoncé il y a une dizaine de jours, on est au plus haut pour la livre face au dollar depuis 10 jours. Et puis sur le marché, c'est aussi la journée des indicateurs avancés concernant le secteur manufacturier. Pour la France, le PMI manufacturier vient de tomber. C'est une baisse inédite depuis mai 2020. Difficile de tourner la page de ce mauvais troisième trimestre. On commence donc le mois d'octobre avec une baisse importante en ce lundi matin. 1,7% de repli pour le CAC 40 à 5660 points.
Merci beaucoup. Aude Kersulec, donc, depuis le siège d'Euronext à La Défense, et ce marché parisien qui est donc en repli assez net, 5659 points, moins 1,78%. Mais le début de BFM Patrimoine ne serait pas complet sans l'info éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
Et elle a une Le gouvernement britannique tempère sa politique controversée de baisse d'impôts massive. Liz Truss renonce à supprimer la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, mesure critiquée jusque dans les rangs du Parti conservateur. Ce week-end, l'agence S&P a dégradé la perspective de sa note pour le pays. Elle s'inquiète de la trajectoire de la dette. L'Italie se dirige vers une récession. Le Trésor italien annonce que l'économie du pays va se contracter pendant 3 trimestres consécutifs. Une reprise est attendue à partir du 2e trimestre de l'année prochaine. Grâce à la hausse de la demande internationale, à la baisse des prix du gaz et au plan et aux aides du plan de relance européen. Les autorités européennes alertent sur les risques pour la stabilité du système financier. C'est du jamais vu depuis 12 ans. Le Comité européen du risque systémique, présidé par Christine Lagarde, estime qu'avec l'inflation, les risques sur la stabilité financière dans l'Union se sont accrus. De son côté, Crédit Suisse tente de rassurer sur l'état de ses liquidités et de ses positions. Tout le week-end, des cadres de la banque ont appelé leurs principaux clients pour calmer leurs inquiétudes, selon le Financial Times. Depuis vendredi, les CDS de Crédit Suisse se sont envolés, atteignant un plus haut d'au moins 10 ans. Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus d'un risque de défaillance. Une situation à ne pas prendre à la légère, selon Éric Delannoy. Pour le président fondateur de Tenzing Consulting, il y a un réel risque systémique. On écoute.
Il y a un vrai stress sur le Crédit Suisse, dans la mesure où il faut se rappeler que le Crédit Suisse est la deuxième banque suisse, hein, 55 000 personnes, 1,200 milliards d'actifs, donc on n'est pas sur une petite banque. Si le Crédit Suisse tombe, une partie du système financier suisse tombe. Donc il est très important de pouvoir faire très attention à la manière dont cette banque va se redresser. Maintenant, le problème qu'il y a avec le Crédit Suisse, c'est que les transformations qu'il y a à faire nécessitent une recapitalisation importante. Or, pour recapitaliser, il faut faire appel à des capitaux extérieurs, et la capitalisation boursière et les conditions dans lesquelles le Crédit Suisse serait susceptible de pouvoir appeler cette capitalisation sont très mauvaises. Et dans ce cadre-là, comment on fait pour transformer une banque quand on n'en a pas les moyens? C'est ça le dilemme.
Dans l'actualité, entreprise Faurecia reçoit 213 millions d'euros de Bruxelles pour développer l'hydrogène en France. Le site d'Allenjoie dans le Doubs va produire 100 000 réservoirs par an. Le démarrage de la production est prévu en 2024. Les livraisons de Tesla sont reparties à la hausse au 3e trimestre avec plus de 343 000 véhicules, soit une hausse de 42% sur un an. Mais ça reste tout de même légèrement inférieur aux prévisions des analystes. Et puis, un mot des élections au Brésil. Les résultats du vote d'hier sont plus serrés qu'attendus. Lula devance de peu Bolsonaro. L'ex-président de gauche arrive en tête avec 48%. Le sortant, Jair Bolsonaro, parvient à 44%. Selon les derniers résultats, le second tour est prévu le 30 octobre, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collo qui nous accompagne au cœur de l'info. Toutes les heures, le marché parisien, lui, est en baisse assez marquée pour ouvrir ce dernier trimestre de l'année boursière. Moins 1,81%, 5 657 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Et c'est Harry Volandler que l'on retrouve chez Mescart Asset Management. Bonjour Harry.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous proposer ce matin un coup d'œil sur GTT. On est donc dans le gaz liquéfié. Est-ce que vous nous rappelez rapidement un petit peu qui est GTT ?
Oui, bien sûr. Donc GTT est une société d'ingénierie qui est spécialisée dans la conception des systèmes de confinement à membrane cryogénique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, ce sont les systèmes qui sont utilisés dans l'industrie navale du transport du gaz naturel liquéfié, mais également pour le stockage en mer et sur terre. Alors, le groupe est le leader incontesté sur un marché résolument porteur avec une croissance pérenne du gaz et bénéficiera naturellement d'un accroissement des parts de marché du GNL avec une demande qui est extrêmement bien orientée, notamment suite au conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Alors, en effet, pour importer du GNL en l'absence de gazoduc, qui est vraiment un problème d'actualité, le transfert du gaz par méthanier est incontournable. Alors, l'entreprise équipe les méthaniers qui construisent en Corée du Sud et en Chine des membranes cryogéniques qui permettent de maintenir des températures extrêmement basses. GTT alors détient donc la totalité quasiment du marché des méthaniers. C'est pas parce qu'il n'y a pas de concurrents, mais sa technologie est bien supérieure à celle de ses concurrents. Alors, grâce à tout ça, GTT bénéficie naturellement d'une très forte dynamique des entrées de commandes, avec un record historique atteint fin juin. Donc GTT a déjà sécurisé dans un environnement économique qui manque de visibilité. Alors c'est pas du tout le cas pour GTT, parce que GTT a sécurisé plus de 1,2 milliard de chiffre d'affaires d'ici 2025 et 2026, avec une très forte croissance attendue en 2023 et 2024. Mais c'est pas la dernière bonne nouvelle qu'on peut annoncer sur GTT, parce que outre le GNL, le groupe investit également dans des nouveaux relais de croissance comme le GNL carburant et l'hydrogène avec la société Elogène, qui a d'ailleurs aujourd'hui obtenu une subvention maximale de 86 millions d'euros.
Bon. Voilà quelques éléments à avoir en tête. Après, il faut quand même regarder aussi ce titre qui, sur 5 ans, sur 3 ans, sur 1 an, et même depuis le début de l'année, affiche une très belle performance. Donc, on est en droit de se demander, Harry, ce matin, s'il reste suffisamment de potentiel. Parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, on a quasiment à chaque fois échoué à aller plus haut que les 130, 135 euros par titre.
Tout à fait.
Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Alors, il faut dire que le titre a été capé par le reclassement à venir d'Engie. Hein. Donc, il est intervenu récemment. Donc, Engie a cédé 6% de son capital, du capital donc, de GTT à un prix de 115 euros. Et il ne reste plus qu'une participation résiduelle de 5% avec un lock-up de 12 mois. Donc ça, c'était un frein, en effet, à la progression du titre. Donc nous, on est toujours, comme vous le savez, très prudents. Donc on a un objectif de cours de 130 euros. De préférence, donc je pense qu'il vaut mieux rentrer sur le titre en dessous de 110 euros, donc ce sera un bon point d'entrée. Mais les 130 euros ne prennent pas en compte la totalité du potentiel sur les relais de croissance dont je vous ai parlé, le GNL carburant et l'hydrogène. Donc certains analystes qui suivent la valeur voit un potentiel jusqu'à 175 euros compte tenu de ces relais de croissance.
Voilà donc un éclairage proposé ce matin par Harry Vollendler depuis Mescart AM sur ce dossier GTT, qui ce matin évolue en baisse de 0,88% à 112,30 €. Mais il faut dire que le marché est quand même très négatif ce matin, moins 1,77, 5660 points. Merci beaucoup Harry et bonne journée chez Mescart AM.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
On rejoint Bruno Cavalier depuis Odo BHF. Bonjour Bruno.
Bonjour.
On va essayer de regarder avec vous ce matin ce qui s'est passé récemment sur le marché obligataire. Alors il y a des nouvelles toutes fraîches qui nous viennent de Grande-Bretagne avec Liz Truss qui fait un peu marche arrière. Mais bon, on va tout de même s'intéresser à ce qui s'est passé sur ce marché obligataire. Comment l'analysez-vous ?
Les mouvements, c'est surtout des mouvements de hausse de taux et puis parfois de rechute lorsqu'il y a, comme vous l'avez rappelé, des interventions directes, comme on l'a vu au Royaume-Uni. Donc tout ça, ça s'inscrit évidemment dans le mouvement de resserrement monétaire global. Quasiment tous les pays, quelques exceptions, montent leurs taux en même temps, très très agressivement, prédisent qu'ils vont continuer dans le mouvement. Donc il y a clairement un risque de... Est-ce qu'ils n'en font pas trop ? Alors, je crois que c'est ça l'interrogation principale. Donc ça nous renvoie quand même aux fonctions des banques centrales. À quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on a des banques centrales ? Qu'est-ce qu'on leur demande exactement ? Alors, évidemment, il y a leur mandat bien connu. On attend d'elles qu'elles assurent la stabilité des prix, puis sans doute aussi un petit peu qu'elles assurent la stabilité de la croissance économique. Ça, c'est des choses qui sont absolument explicites, mais il y a une chose qui a tellement de soi qu'on n'a souvent pas besoin de le dire, c'est qu'on attend aussi qu'elles contribuent à la stabilité financière. Et c'est là où je crois que c'est important de revenir sur les évolutions récentes des marchés obligataires, parce que la question qui se pose aujourd'hui, Et est-ce que, en cas de turbulence supplémentaire, c'est pas ça qui pourrait les pousser à, sinon stopper, en tout cas à freiner quelque peu leur politique de restriction. En tout cas, c'est la question qui est posée. On a vu que le Royaume-Uni a donné une réponse correspondant à cette situation très spécifique. On a entendu à la Fed, à la fin de la semaine dernière, Madame Brenner, donc Madame Brenner, c'est la numéro 2 de la Fed, disant « Ah, mais on est attentif à ça. Bon, pour l'instant, on a quand même comme priorité de lutter contre l'inflation. Mmh. » Je pense que c'est une thématique qui va être de plus en plus présente dans les prochains jours dans les discours des banquiers centraux.
Malgré tout, focalisons-nous un tout petit peu, si c'est utile, sur le Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a un problème spécifique au Royaume-Uni ?
Il y a certainement un problème de crédibilité particulièrement aigu qui s'est manifesté il y a une dizaine de jours lorsque le nouveau gouvernement a présenté son programme budgétaire, un programme qui a réussi à faire à peu près l'unanimité contre lui depuis évidemment la réaction des marchés jusqu'au Fonds monétaire international, et ce qui a donné, j'espère, de revirement partiel des annonces de ce matin. Donc oui, il y a un problème de crédibilité du nouveau gouvernement dans un contexte qui est pas spécifiquement britannique. Il y a une crise de l'énergie, il y a un choc d'inflation, il y a une pression très forte sur l'activité. Mais on voit bien que voilà, un petit grain de sable, ou un gros grain de sable, comme vous voulez, mais à un moment peut provoquer une surréaction, bon, avec les mouvements qu'on a rappelés tout à l'heure en termes de hausse de taux. Et naturellement, la vitesse et l'ampleur du mouvement automatiquement évoque des problèmes dans telle ou telle institution financière, voire peut-être pour le système.
Et du coup, à regarder ces évolutions dont on s'entretient ce matin, Bruno, est-ce que les autres banques centrales peuvent en tirer des enseignements ?
Alors moi, je serais assez prudent sur... on a vu que la Banque d'Angleterre, bon, qui avait prévu de vendre une partie de son portefeuille d'actifs en urgence, a dit, voilà, pendant 13 jours, je vais en racheter à nouveau des titres. Comme j'ai mentionné, je crois qu'il y a quand même une spécificité liée à le manque de crédibilité du nouveau gouvernement. Je m'attends pas à ce que la Fed ou la Banque centrale européenne agissent de la même manière. Mais il est certain que pour elle, c'est aussi un sujet de surveillance, de la stabilité financière, comme je l'ai dit, c'est un de leurs mandats implicites, celui qu'on n'évoque jamais parce qu'il va de soi. Si la stabilité financière est compromise, nécessairement, c'est un paramètre nouveau qu'il faut mettre dans l'équation des banques centrales. Et un paramètre qui est encore une quinzaine de jours ou une dizaine de jours était absent du débat.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête sur ce marché obligataire. Et puis, prenons un petit peu d'avance sur le calendrier, si vous le voulez. Moi, bien, Bruno, on a l'emploi américain qui est programmé vendredi avec son corollaire de des tâches de fusée qui vont émailler toute la semaine. Qu'est-ce qu'on attend pour cet emploi américain ?
Alors, le consensus attend un petit freinage du rythme des créations d'emplois, attend une stabilité à un très bas niveau du taux de chômage, autrement dit, attend un rapport qui resterait assez solide. Et comme on sait, du point de vue de la Fed, la situation du marché du travail, en fait, aujourd'hui, qu'il est trop résistant, trop dynamique, et que la Fed, de manière tout à fait explicite, a dit « moi, je veux peser sur la demande, parce que je veux peser sur l'inflation, et qu'il me faut des chiffres plus mauvais. Il me faut un emploi qui, peut-être, arrête de monter, voire se contracte. Il me faut un taux de chômage plus élevé. » Donc, si sur la base du consensus, selon les chiffres qu'on a vendredi, je ne pense pas que la Fed en tirera l'idée qu'elle est déjà arrivée au bout de son processus de de hausse des taux. Donc en tout cas, c'est certainement du point de vue macro l'information principale à digérer pour la Réserve fédérale d'ici la prochaine réunion au début du mois de novembre.
Merci beaucoup Bruno. Bruno Cavalier depuis Odo BHF ce matin. Le marché qui est en repli d'un 56%, 5672 points.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
La vie IMO qui accueille ce matin Emmanuel Provost pour AFI SK Patrimoine. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Cédric.
Merci d'être de passage ce matin sur le plateau. On va profiter de votre venue pour tirer un premier bilan de la mise en application de la loi Lemoine qui est venue donner un petit peu d'air à ce marché du crédit et de l'assurance. Comment est-ce que vous voyez les choses depuis qu'on peut naviguer plus librement?
Mais écoutez, je crois que la première partie de la loi Lemoine est un succès sur le mois de septembre, parce que l'application de cette loi Lemoine, qui dit qu'on peut résilier son assurance à tout moment, n'a qu'un mois. Voilà. Mais je pense que certains intervenants vous l'ont dit également, je pense que c'est un gros, gros succès. Il y a de la demande. Alors, je ne vous cache pas, Cédric, que...
Est-ce que les emprunteurs se sont accaparés cette loi ?
Les emprunteurs... J'allais vous dire que grâce aux médias, grâce à cette loi qui, quand même, a été pas mal portée par les médias. Hein. On a vraiment eu un début de septembre plutôt assez informatif sur le sujet. Et je pense que les consommateurs, les clients, ont les assurés, hein, puisque ce sont des assurés qui résilient leur assurance qu'ils ont souscrit il y a quelques années. Eh bien, écoutez, ils ont répondu oui à l'appel. J'en veux pour preuve, nous avons une cellule qui s'occupe de ça chez nous, au service des courtiers chez Fiesca, et qui a constaté depuis un mois une demande, et de plus en plus de contacts et de plus en plus de gens qui veulent résilier. Alors, c'est d'autant plus facile que maintenant nous n'avons plus ces fenêtres de tir qui correspondaient à la date anniversaire.
Oui, il y a toujours les questions des dates, oui.
Voilà, la question des dates qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'aisance à le faire.
Et est-ce qu'on peut juste rappeler, parce que quand je me souviens, il y a 7-8 ans, quand on était en pleine période des renégociations de crédit immobilier, là, les courtiers donnaient tout le temps les 2-3 critères qu'il fallait absolument avoir pour savoir si on avait intérêt à renouveler. Aujourd'hui, quels sont quoi ? C'est, il faut être dans le premier tiers du. Enfin voilà, quels sont les quelques. Alors, tics qu'on doit avoir quand on se dit, tiens, est-ce que j'aurais intérêt ou pas à renégocier mon assurance ?
Ben, je dirais que vous avez plusieurs possibilités. Soit vous êtes... Alors, il y a une possibilité qui est assez flagrante depuis quelques années, c'est qu'à un moment donné, vous avez obtenu votre prêt et puis vous avez été obligé, entre guillemets, de souscrire l'assurance auprès de votre banque. Et c'est valable pour il y a un an, il y a deux ans. Et à ce moment-là, vous vous dites, OK, je vais avoir mon crédit et puis d'ici un an ou deux, je renégocierai mon assurance d'emprunteur. C'est le moment un peu idéal, hein. Maintenant, vous avez des crédits entre 5 et 10 ans qui sont aujourd'hui de solde restendu. Vous avez 5 à 10 ans de crédit à payer. Vous pouvez parfaitement, encore une fois, renégocier votre crédit puisque vous êtes basé sur un capital restendu. Donc, on va dire que vous pouvez aussi, même sur des prêts qui ont 10, 15 ans, parfaitement renégocier votre crédit, même s'il reste peu de temps à la limite. Mmh.
Voilà donc cette application de la loi. Bon, il y avait aussi d'autres effets de cette loi, notamment sur les questionnaires de santé, les ceci et cela. Là, c'est...
Oui, il y a eu un petit peu de confusion au mois de septembre, parce que les beaucoup de gens ont pensé que la suppression du questionnaire de santé en dessous de 200 000 les concernait un rachat d'assurance. Bon, il y a eu beaucoup de confusion. Toujours est-il qu'il faut avoir vraiment à l'esprit que si il vous reste 200 000 euros ou moins à rembourser et que vous avez moins de 60 ans à l'arrivée, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez renégocier votre assurance de prêt sans questionnaire de santé.
D'accord.
Voilà. Alors, j'ouvre quand même une parenthèse que je referme assez vite. le consommateur a tout intérêt à renégocier une assurance de prêt venant d'une banque plutôt que de renégocier une assurance de prêt qui vient déjà d'un assureur alternatif. Ça, c'était un point important quand même à signaler.
Voilà donc cette loi Lemoine. Et puis, autre gros dossier du moment, c'est le taux d'usure. Quelle est la position d'AFISK Patrimoine là-dessus?
Alors, le taux d'usure, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il n'y a que ce mot-là à la bouche des commentateurs et des intervenants depuis un mois. C'est vrai que c'est une grosse difficulté et que on intervient là deux jours après l'arrêt. La hausse de ce fameux taux d'usure, qui est à 3,05 maintenant, qui permet une bouffée d'oxygène. Mais notre position sur la question, c'est de dire la chose suivante. On a quelques semaines de répit avant que les banques, qui en ce moment ne font que très peu de marge, très sincèrement, elles auraient éventuellement raison de profiter de cette hausse du taux d'usure pour élever également leur taux de crédit, notre position, c'est qu'aujourd'hui, il faut sortir l'assurance de prêt de ce calcul du taux global, en référence au taux d'usure, parce qu'on pense qu'il y a une sorte de discrimination. Une discrimination, parce que vous aurez tous à peu près le même taux de crédit, vous aurez tous les mêmes frais, vous aurez tous les mêmes frais d'hypothèque, sauf que l'assurance de prêt... C'est pas la même chose. Lorsque vous avez 25 ans, que vous avez 50 ans, que vous avez 30 ans et que vous faites un sport à risque, ou que vous avez 30 ans et que vous ne faites pas de sport à risque, vous n'avez pas le même taux d'assurance. Je me suis livré juste à un petit calcul avant de venir. Très, très, très marrant, j'allais dire, mais pas marrant du tout. Avec un taux d'usure à 3,05, si quelqu'un de 35 ans fait un prêt de 200 000 euros sur 20 ans, il va payer chez un assureur alternatif à peu près 20 euros par mois d'assurance, chez un assureur groupe bancaire à peu près 50 euros. La différence, c'est que ça lui fait passer son taux global de 2,90 à 3,21%. C'est-à-dire qu'il y a une différence de 0,31% sur ce fameux calcul du taux d'usure. Ça vous donne une idée du 3,05.
Donc les assureurs alternatifs, entre guillemets, leur idée, oui, c'est sortons l'assurance du taux d'usure.
Exactement. Et il y a un amendement qui a été déposé d'ailleurs la semaine dernière sur la prochaine loi de finances qui stipule qu'on souhaiterait, nous souhaiterions... sortir ce fameux taux d'assurance du calcul.
Donc on garderait les frais de dossier, les sociétés.
Oui, bien sûr, mais on aurait quand même une certaine latitude et puis le consommateur
pourrait
choisir. Parce que c'est
plus dépendant de l'emprunteur que du système.
Exactement.
Merci beaucoup Emmanuel Provost, AFISK Patrimoine, qui nous accompagnait ce matin pour la vie IMO. Le marché, lui, est en difficulté. On va voir ce qu'en disent nos traders. On perd 1,39%, 5 682 points.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Chaque jour à 10h30, deux traders décryptent graphiquement la tendance du jour pour vous donner les clés techniques de la journée. On retrouve Jean-Louis Cussac depuis ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis et merci d'être au rendez-vous. Et face à vous ce matin, Andrea Twenny en duplex depuis Saxo Bank. Bonjour Andrea. Merci également d'être présent. Bonjour. Ce matin. André, on commence avec vous. Comment analysez-vous ce début de semaine, ce début de mois et ce début de dernier trimestre assez malmené pour le moment?
Ouais, ça reste compliqué. On recommence vraiment un nouveau trimestre avec les mêmes problématiques, avec les mêmes thématiques, à savoir d'un côté, bon, bien sûr, l'inflation, les politiques monétaires et les conséquences sur l'économie avec le risque de récession qui pèse, et puis toujours une crise énergétique aussi qui, alimente aussi cette inflation, etc., mais qui est vraiment un vrai sujet d'attention aussi pour les marchés, notamment cette semaine avec la réunion de l'OPEP en approche et ce risque de réduction de la production. Et donc, du coup, on l'a vu, les cours du pétrole qui progressent depuis la fin de la semaine dernière et notamment aussi ce matin où on voit une progression assez nette. Donc, du coup, on repart vraiment avec les mêmes catalyseurs, avec les mêmes sujets. C'est vrai que dans ce contexte-là, c'est compliqué d'espérer voir beaucoup d'amélioration du côté du marché. Donc, on a une tendance qui est assez lourde, déjà depuis plusieurs séances, et encore une fois ce matin, ça se confirme avec une nouvelle baisse du CAC dès l'ouverture et dans l'ensemble des marchés européens. Alors à cela s'ajoute aussi le problème de Crédit Suisse qui pèse sur le secteur bancaire, hein, des boires financiers, hein, de Crédit Suisse qui sont encore à confirmer. Hein, c'est pour le moment on est au stade de rumeurs, donc on va pas analyser et plus épiloguer là-dessus sur ce sujet, mais c'est vrai que ça a un impact sur le secteur bancaire et donc ça sera un sujet à surveiller dans les prochaines séances. Et puis bon bah toujours encore une fois les mêmes problématiques que j'ai déjà citées et qui pèsent encore une fois sur le marché. Donc on revient sur des points bas, on a un niveau de support à 5650 qu'il est important de maintenir parce que si on venait à le casser là pour le coup on pourrait basculer dans une spirale encore plus négative. Et il faut encore une fois surveiller aussi d'autres aspects. Alors on a vu qu'il y avait une petite accalmie sur le dollar, hein, qui a trouvé un niveau de support, notamment sur cette paire au dollar. On voit qu'il y a un support. On voit aussi du coup qu'au niveau du 10 ans américain, notamment, on s'éloigne un petit peu des 4%, même si ça remonte ce matin. Mais c'est vrai qu'en fin de semaine dernière, on avait légèrement baissé d'un cran sur le 10 ans américain, ce qui avait aidé un petit peu les autres devises, notamment l'euro, à reprendre de la hauteur. Et après, il faudra surveiller aussi tout au long de la semaine les indicateurs macroéconomiques. C'est une semaine qui va être assez chargée. On aura notamment l'ISM, le rapport sur l'emploi en fin de semaine. Et on sait que dans ce contexte de politique monétaire, de hausse de taux de la part des banques centrales, les données macroéconomiques ont leur importance parce qu'on va voir déjà, un, l'impact de la politique monétaire telle qu'elle est actuellement. Et aussi, est-ce que les banques centrales ont encore de la marge de manœuvre pour poursuivre, on va dire, leur politique restrictive et cette hausse de taux qu'on observe notamment du côté de la Fed. Et puis après, ce qui sera aussi très intéressant, c'est de revoir un petit peu de microéconomie à partir de la semaine prochaine et de commencer à essayer d'anticiper les premiers impacts, on va dire, de ces nouvelles politiques, de ces nouvelles conditions économiques sur les comptes des entreprises. Et donc du coup, ça va peut-être être un catalyseur qui va nous permettre de sortir un petit peu des trois axes que j'avais fixés au début, c'est-à-dire toujours les mêmes: inflation, crise énergétique et banque centrale.
Voilà donc la vision proposée par Andrea Twenny. Jean-Louis Cussac, comment décryptez-vous cette tendance de début de dernier trimestre?
C'est toujours le doute, la méfiance, la prudence qui domine. On est à 480 millions, c'est raisonnable, hein, c'est vraiment un volume modéré. Par contre, on a une volatilité implicite à 27, donc c'est vraiment important. Ça veut dire que tout le monde est très, 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 très prudent, très méfiant. Alors, on est toujours à la baisse. En tout cas, il y a plutôt de la lourdeur, parce que en fait, depuis 6 séances, on est à peu près dans les mêmes limites. Sauf que là, ce matin, on est sur un point bas de cette zone, donc c'est sûr que ça inquiète davantage. Mais il y a de sacrés rebonds. Vendredi encore, il y a eu un rebond jusqu'à 5772. C'était assez impressionnant. Et puis derrière, ça rebaisse facilement. Ce matin encore, on a fait des écarts. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de densité. Ça veut dire qu'il y a vraiment... Des acteurs qui sont prêts parfois à y croire, à se dire qu'après tout, pourquoi on n'aurait pas une mauvaise nouvelle. Mais on voit bien que les problèmes s'additionnent toujours. Et le dernier étant avec l'OPEP aussi, là, cette menace d'une moindre production. Chaque problème s'enfonce davantage dans la complexité et la difficulté qu'on aura à le résoudre. Alors c'est sûr que ça donne pas envie de prendre des risques. À court terme, si vous voulez, on reste baissier, très corrélé au taux souverain. Nous avons proposé une vente vers 5730 ce matin à 8h. Bon, on est allé chercher ce niveau, puis là, on rachète, on garde un seul vendeur, il n'y a pas d'indication de rebond. Je vous ai dit aussi la semaine dernière que peut-être 5620-15 pouvait constituer un point bas temporaire, donc je garde cette idée. Donc dans cette zone, si vous voulez, on rachète beaucoup, entre par exemple 5640 et 5620. Le point où la situation s'améliore, c'est ça qu'il faut essayer de trouver. C'est à partir de quand on s'éloigne de la zone de danger. Bon, pour l'instant, c'est encore un petit peu loin, c'est 5920. On aurait des signes d'amélioration, oui, assez intéressants. Il faut être agressif, parce que si on attend trop loin, après, on va se retrouver dans la zone long terme, avec 6004 au-dessus de la tête, donc il faut essayer d'aller plus vite. Et puis on voit, c'est un élément, on va dire, entre guillemets, quand même positif, c'est la bonne tenue de l'euro, ça va mieux. Ça fait maintenant aussi 5-6 séances que l'euro a rebondi, et on dirait il a beaucoup baissé, mais... Il arrive à ce matin encore à défendre les 0,98, mais on reste vendeur parce que évidemment ce n'est pas suffisant pour basculer haussier sur l'euro-dollar. Et on vendait, justement, on avait proposé ce matin une vente sous 0,9850. Voilà, on n'a pas encore atteint ce niveau, mais c'est l'idée. On va garder l'idée de vendre sur l'euro-dollar, de vendre les marchés actions. Et dans le pipeline, c'est vrai, on ne voit toujours pas un potentiel catalyseur positif.
Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Louis Cussac, donc Perceval Finance Conseil, André Atouigny depuis Saxo Bank, et ce marché parisien donc qui pour le moment baisse d'un 51%, 5675 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Pas de hausse du livret A en novembre, selon le Parisien. La Banque de France renonce au coup de pouce malgré l'inflation. Pourquoi ce choix ?
D'abord parce que le livret A a été rehaussé tout récemment, c'était au mois d'août. Et la hausse était importante, même si ça reste peu rémunérateur, on est passé de 1 à 2%. La deuxième raison, c'est que l'inflation, elle est nettement plus faible en France que dans les autres pays d'Europe. Elle a d'ailleurs baissé. En septembre, en rythme annuel, on est tombé à 5,6%, on était à 5,9% au mois d'août. Et sur la même période, elle vient de toucher les 10% en Europe. Alors si je suis très honnête, j'exprime l'indice des prix à la consommation en France en version harmonisée, qui est la version quand même qui permet de comparer avec l'Europe. 10% en Europe et en version IPCH, comme on dit, donc l'indice des prix à la consommation harmonisée, on est à 6,2% en France. On est quand même très, très, très largement en dessous, du fait notamment de l'ensemble des différents boucliers qui ont été mis en place. L'Allemagne est à deux doigts des 11, là, des 11%. C'est d'ailleurs, ça les fait tellement flipper, les Allemands, que c'est la raison qui les a poussés à sortir de nulle part leur plan à 200 milliards d'euros jeudi dernier.
Parce que plan qui fait grincer des dents.
Ah oui, ça fait grincer des dents, mais c'est il y a une tension sociale qui monte en Allemagne. Et puis, vous savez qu'historiquement, les Allemands n'aiment pas tellement l'inflation. Ils font partie des peuples chez qui ça a laissé de très mauvais souvenirs. Et puis ensuite, c'est un choix de la Banque de France aussi. Il faut bien voir que il y a un arrêté de janvier 2021 qui donne la possibilité à la Banque de France, au-delà des dates habituelles de février et d'août, de décider des évolutions du taux du livret A compte tenu de l'inflation de manière exceptionnelle au mois de mai et au mois de novembre. Mais voilà, c'est la Banque de France qui décide si oui ou non il y a revalorisation du taux du livret A. Et donc, un porte-parole de la Banque de France indique aux Parisiens ce matin qu'il n'y aura pas de hausse en novembre.
C'est un choix qui peut surprendre au moment où l'exécutif fait feu de tout bois pour agir en faveur du pouvoir d'achat, non ?
Ah oui, mais la Banque de France, elle n'a pas les mêmes objectifs. Elle, son objectif, c'est surtout pas d'inciter à épargner. C'est d'inciter à désépargner. Pour soutenir la consommation. Quand on est passé de 1 à 2% au mois d'août, il y a eu 4,5 milliards d'euros récoltés au mois d'août. Une somme absolument astronomique. Et puis, il faut bien voir aussi que si on paye mieux le livret A, derrière, il y a des gens qui en font les frais. Ce sont les banques qui gèrent ce livret, ce sont la Caisse des dépôts qui récupère une partie des encours du livret A. Et puis le financement du logement social, si tant est que le logement social ait vraiment besoin de financement, puisqu'une partie du financement du logement social vient directement des encours du livret A. Donc si le livret A est mieux payé, il y a des gens d'ailleurs qui aussi payent plus cher. Et puis, deuxième motivation de la Banque de France, il ne faut pas décourager l'assurance-vie en fonds euros.
Eh oui.
Parce que le problème, c'est qu'il y a un peu des jeux de vase communicants. Et aujourd'hui, le livret A paye mieux que les fonds euros. On doit être, si vous êtes plus au courant que moi, mais on doit être dans les 1,3%, un truc comme ça. Et bien les fonds euros, il faut bien voir que c'est avec ça qu'on finance une bonne partie de la dette de la France, et la France a besoin de vendre sa dette publique, et donc il faut qu'il y ait des fonds euros. Et voilà pourquoi on freine un petit peu sur le livret A pour éviter d'inciter à aller trop vers le livret A et un petit peu moins vers l'assurance-vie.
Donc, notre livret A, enfin la rémunération de ce livret A va rester sous l'inflation.
Ah ben, clairement, oui, c'est pas un bon placement. Et aujourd'hui, le rendement est négatif, il n'y a aucun problème là-dessus, puisqu'on est à 2% et on est à 5-6% d'inflation. Et il est vrai que sur une année complète, le livret A grignote du pouvoir d'achat. C'est mieux d'avoir quand même malgré tout un livret A qu'un compte courant. Parce qu'il y a aussi le réflexe aujourd'hui qui consiste à laisser énormément de cash sur les comptes courants, où là, c'est la peine totale. Là vous n'avez aucune rémunération. Bah, et après, le livret A, ces fameux trois atouts qui restent inaliénables, il n'est pas imposé. L'argent est totalement liquide, aussi liquide que sur un compte courant. Et puis, vous avez quand même cette garantie de l'État, l'argent qui est sur votre livret A, avant que vous perdiez cet argent, les poules auront des crocs.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Nous, tout de suite, on jette un œil sur le marché parisien.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Le marché parisien qui, en ce moment, perd du terrain. On commence le mois, la semaine et le dernier trimestre sur une note négative, -1,43%, 5679 points. On baisse d'ailleurs un petit peu partout en Europe, -1,33% en ce moment pour l'Eurostoxx 50. Petit coup d'œil sur les valeurs qui se distinguent ce matin à la Bourse de Paris et notamment quelques hausses tout de même, dont Total, Engie et Carrefour. Total qui gagne 2,11% à 49,29, Engie plus 1% à 11,96 et Carrefour gagne 0,74% à 14,32 €. Les baisses sont bien évidemment plus nombreuses et plus marquées. Dassault Systèmes laisse filer 4,63% à 34,08. Soggen perd 3,38% à 19,71. Capgemini -3,38 également, 159,90. Au total, on a une bonne quinzaine de titres qui perdent plus de 2% actuellement à la Bourse de Paris. Du côté des devises, l'eurodoll est à 98,20. Le pétrole, le Brent, à 88,73.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Deux experts en plateau ce matin, comme une fois par mois, Christian Fontaine pour le revenu et Stéphane Van Uffel pour Net Investissement. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric.
Bonjour à tous.
Merci d'être fidèle au poste ce matin. Avec vous, on cause retraite, c'est ça Christian ?
Et oui, on cause retraite parce que c'est quand même l'une des grosses actualités patrimoniales de l'automne. Il y a l'inflation, on en parlait la fois dernière avec Stéphane lors du précédent débat, et puis il y a la retraite. Alors, parlons vrai, quelle que soit la réforme des retraites, les derniers rapports du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui font vraiment référence, sont clairs. Les retraites vont baisser, alors rassurez-vous, pas en montant absolu, mais en montant relatif. C'est-à-dire que le taux de remplacement, le ratio entre la première pension versée par les régimes obligatoires et le dernier salaire d'activité va baisser malheureusement pour les nouvelles générations. Donc du coup, il n'y a pas 36 000 solutions. Si vous voulez maintenir votre pouvoir d'achat, il faut bien savoir que pour les générations qui partent aujourd'hui et dans les années à venir, le passage à la retraite sur le plan financier, ça pique. Ça veut dire que peu ou prou vos revenus sont divisés par deux en l'espace d'une période très, très courte. Alors, comment maintenir votre pouvoir d'achat ? Il y a une seule solution, et c'est bien sûr l'épargne au long cours. Alors, rassurez-vous, on ne va pas, avec Stéphane, vous ressortir l'éternel rein grand gain sur la nécessité d'être propriétaire, de se constituer une épargne diversifiée en bourse, immobilier, assurance-vie. Non. Ce qu'on vous propose, c'est de jeter les bases d'une bonne préparation à la retraite. Et en ce qui me concerne, donc je resterai fidèle à l'approche du revenu, qui n'est plus une approche pratique, mais qui est une approche pratico-pratique pour 2022-2023.
Pratico-pratique. Attention. Là. Stéphane, les bonnes bases d'une bonne préparation à la retraite.
Maintenant que Christian a dit qu'on ne pouvait pas ressasser les bonnes bases de la
retraite. Vous a savonné la planche, c'est pas possible.
Non, évidemment, moi je vais faire mon job, pardonnez-moi, une fois n'est pas coutume, de conseiller en gestion de patrimoine, et je vais rappeler, on va enfoncer des portes ouvertes, mais la retraite est finalement un sujet tellement important pour les Français qu'on ne peut pas se permettre de ne pas répéter continuellement des choses qui paraissent basiques, mais que je peux vous garantir, au quotidien, on ne voit pas toujours selon les générations, puisqu'en fait, plus on est jeune, moins on a tendance à avoir conscience qu'un jour on devra préparer sa retraite, ou en tout cas qu'un jour on y sera, a fortiori avec les dernières annonces du gouvernement. Donc la première chose, c'est évidemment d'anticiper. Le plus important, quand on prépare sa retraite, c'est de poser à plat une situation aujourd'hui et de dessiner quelques scénarios qui pourrait arriver tant qu'on est actif, mais également, et c'est vrai que c'est difficile, parce qu'à 25 ans, 35 ans, même 45 ans, ce qui est mon âge, c'est difficile de s'imaginer ce qu'on a envie de faire en 20 ans, et comment on a envie de passer sa vie, mais c'est primordial, en fait, de regarder quels sont les moyens qu'on a aujourd'hui pour préparer les moyens qu'on voudrait avoir demain. Parce que Christian a mis le doigt sur la chose la plus importante, c'est que finalement, il peut y avoir un choc très important dans son pouvoir d'achat entre les dernières années d'activité et les années de retraite, parce qu'aujourd'hui on est en forme quand on est à la retraite et on a envie de consommer, et on le voit très bien dans toutes les études économiques, l'épargne fond très vite les premières années de la retraite parce qu'on est encore très actif. Et autre sujet, l'anticipation. Alors je vais me faire un peu l'oiseau de mauvaise augure, c'est aussi anticiper parce qu'on sait qu'on vit longtemps et on sait que la fin de vie devient de plus en plus chère avec la grande dépendance. Donc il faut aussi avoir une stratégie patrimoniale qui englobe comme ça ce passage de la vie active à la première période de retraite où on veut être actif, puis ensuite de préparer quand même et de ne pas tout brûler pour les dernières années, parce que sinon ça va être reporté sur la génération d'après qui va devoir déjà supporter le régime de retraite normal. Donc on va éviter de tout leur faire porter à nos jeunes pour demain.
C'est quoi vos bonnes bases si vous, puisque vous avez interdit à Stéphane d'utiliser l'épargne de précaution, l'immobilier et...
Alors, les bonnes bases, c'est effectivement le mot anticipation. Alors, soyons très, très concrets. Pour se doter d'un vrai capital retraite, il faut profiter d'un effet de levier, surtout avec des taux aussi bas aujourd'hui. Alors, l'effet de levier, il peut être le crédit, mais tout le monde ne peut pas emprunter. Il peut y avoir un effet de levier fiscal, donc vous placez des éventuelles économies d'impôts, mais tout le monde ne paye pas des impôts. Le principal effet de levier, c'est le temps. Et le temps, tout le monde en a, en tout cas tous les jeunes actifs en ont. Mon cher Cédric, une petite question pour vous. Si vous mettez 150 euros de côté à compter de votre âge de 25 ans, à compter de 25 ans, combien vous aurez à 65 ans ?
Mais je suis nul en maths.
Ah, vous êtes nul en maths. Alors, vous auriez pu, je ne pensais pas que vous alliez
me
répondre.
Je vous le redirai chaque lundi.
Je pensais que vous alliez.
50 000.
Je pensais que vous alliez me dire.
50 000.
Je pensais que vous alliez me dire, mais tout dépend du taux auquel vous placez.
Alors, 30 000.
Alors, 150 euros par mois. Vous commencez à épargner votre retraite à 25 ans. Souvent, à 25 ans, on n'a pas de pouvoir d'achat. 150 euros par mois, une somme pas non plus extraordinaire. 150 euros par mois à compter de 25 ans. Pendant 65 ans, combien vous aurez à 65 ans? Ben, vous aurez, selon le taux, évidemment, auquel vous placez, vous aurez plus de 600 000 euros. Hein? Pas négligeable. Ah. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour avoir plus de 600 000 euros en plaçant 150 euros par mois? Eh ben, on profite de l'effet de levier du temps. Le temps, c'est les petits ruisseaux fondent les grandes rivières. Et derrière ce principe qu'on répète depuis 50 ans au revenu, il y a une formule mathématique dont on ne parle pas assez, ce qu'on appelle les intérêts composés. Et les intérêts composés, Einstein disait, c'était la huitième merveille du monde. C'est le principe, tout le monde connaît le principe, mais vous investissez 100 à 5%. Au bout d'un an, vous avez 105, et la deuxième année, ben, vous aurez un peu plus que 5 euros de gains, puisque les 5% ne s'appliqueront pas sur 100, mais sur 100 plus les gains de l'année précédente, c'est-à-dire 105. Donc, ce qui est très important pour le capital retraite, et c'est vraiment le principe de base pour une bonne préparation, c'est de commencer à préparer tôt pour profiter de ces effets de levier du temps. C'est l'élément clé pour une bonne préparation à la retraite. Alors, mon cher Cédric, vous m'avez pas posé la question, mais pour passer de 150 euros d'épargne par mois à plus de 600 000 euros, entre parenthèses, donc si vous voulez passer au million, le million, ça fait quand même rêver. Hein. Million, c'est exactement pareil, mais il faut partir avec 15 000 euros. Un petit bas de laine de 15 000 euros. C'est quand même faisable. 15 000 euros plus 150 euros par mois, et vous avez le million. Le million, je vois bien vous sourire, voilà, vous avez raison. Le million, oui. Ça fait rêver. Alors évidemment, il y a une condition. Alors, il y a plusieurs conditions. Mais une condition.
Attention.
Et il faut placer
on arrive aux petites astérisques.
Il faut placer un taux relativement élevé. Ah, oui. Il faut placer peu ou prou au taux de rendement moyen des actions depuis 10 ans. Bon. Et ce taux.
Alors, donc, accepter le risque marché.
Donc, accepter bien sûr ce risque marché, mais avec vous écrasez ce risque marché avec le temps. Ouais. Voilà. Bon, il faut placer. Je ne vais pas donner le chiffre. Il faut placer à 9%. Mais 9%, attention, c'est possible, 9%. La performance de l'indice. De l'indice MSCI Worldwide, qui est investi sur 26 pays développés, 1500 valeurs. Depuis 10 ans, la performance moyenne de cet indice, en euros, donc pour investir en euros, est supérieure à 11%. Donc, c'est... Bon, alors bien sûr, les performances passées ne sont pas les performances à venir, mais quand même, voilà, c'était premier élément. Donc, commencez à épargner jeune, tôt, mais pas forcément des grosses sommes.
Mais est-ce que si on a dépassé la quarantaine, tout ci, tout ça, et qu'on n'a encore rien fait, on se dit, c'est mort, c'est trop tard?
Non, mais c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Parce que cet effet de merveille, c'est l'effet des intérêts composés fonctionne à merveille sur 40 ans, mais fonctionne aussi sur 20 ans. Sur 20 ans. Donc, quand vous avez 45 ans, vous avez peu ou prou 20 années devant vous. Et non, au contraire, la seule différence, c'est que vous ne devrez plus épargner 150 euros par mois, mais sans doute la durée étant deux fois plus courte et à cause de l'effet exponentiel des intérêts composés, vous devrez épargner un peu plus que le double, donc plutôt 350 ou 400 euros. Mais vous profiterez aussi de cet effet temps.
C'est important ce que dit Christian, parce que je rebondis. Si vous mettez l'anticipation et le temps, quel que soit l'âge à laquelle vous commencez, le fait d'avoir moins de temps vous oblige à augmenter le montant de votre épargne. Mais de toute façon, même si vous commencez tôt, le conseil qu'on peut donner, c'est de le faire aussi progressif. Si vous avez la possibilité de mettre 150 euros à 25 ans tous les mois, à 45 ans, vous aurez forcément l'intention, la possibilité de mettre 300. Faites-le quand même, même si vous avez déjà mis 150 euros depuis vos 25 ans.
Ah, vous voulez dire qu'on n'est pas obligé de rester à 150 balles?
L'anticipation, le temps et la progressivité sont des choses très très importantes, parce que finalement, normalement, le reste de votre patrimoine a été aussi constitué pendant ces années-là, et finalement, le pouvoir d'achat que vous avez mis dans votre résidence principale, n'en déplaise à Christian d'en parler, pendant un certain nombre d'années, après 50, normalement, vous avez remboursé votre crédit, et peut-être que vous pouvez réorienter ces épargnes pour accélérer votre préparation à la retraite.
Bon, il faut quand même aussi, à part la solution des petites rivières qui font les grands fleuves, là, trouver d'autres solutions. On va fêter l'anniversaire du PER, etc. Quelles autres solutions, aujourd'hui?
Alors, vous avez raison, il faut parler solution, il faut être concret. Et en poursuivant quand même avec les 150 euros par mois, en étant pratico-pratique, il faut investir, je dirais d'abord, dans une bonne enveloppe fiscale. Vous parlez du PER, il y a peut-être une enveloppe fiscale qui est peut-être la meilleure pour préparer sa retraite, c'est le plan d'épargne en action, hein, qui permet, et vous avez une certaine grande forme de souplesse, et puis vous ne payez que 17,2% d'impôt sur les gains. Reste ensuite à trouver le support, entre guillemets, un petit peu miracle, parce que le support miracle n'existe pas, pour pouvoir gagner 8-9% par an. Écoutez, toujours dans une approche pratico-pratique, au revenu, ce qu'on aime bien, c'est les trackers, vous savez, ces fonds indiciels cotés en bourse qui répliquent la performance des grands indices. Et pour un investissement sur le très long terme, en grande valeur de pays développés, ben, ça fonctionne bien. Un produit, alors, il faut consulter les bancs d'essai du revenu, mais peu ou prou tous les grands gestionnaires de trackers. Hein, c'est un produit que tout le monde ne connaît pas encore, mais c'est un produit qui existe depuis une bonne vingtaine d'années. C'est le produit phare sur lequel les épargnants américains placent l'essentiel de leur épargne. Et en France, ce produit commence à faire une percée très significative. Et donc, il faut consulter nos bancs d'essai, mais peu ou prou tous les grands gestionnaires de patrimoine, les grands gestionnaires de trackers, ETF, si vous cherchez plutôt, c'est ETF le mot-clé sur Internet, propose ce type de produit investi sur 1600 valeurs de tous les pays occidentaux. Il y en a notamment chez Amundi MSCI World, et comme dans une approche et le code mémotechnique pour le récupérer sur les sites de vos courtiers, c'est LU16 81 10 43 599. Vous le retrouvez
en ligne, bien sûr.
Ça, c'est le code ISIN, oui, mais c'est vraiment l'élément clé pour retrouver le placement, parce que sinon si vous tapez uniquement le nom, vous allez
là, retrouver vous êtes sûr de
beaucoup
pas
de produits analogues. Là, vous êtes sûr qu'il n'y ait pas de produits. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que commencer à épargner tôt, 150 euros par mois, ça peut suffire. Il faut choisir un bon support d'investissement dans une bonne enveloppe. Et donc, le Amundi MSCI World, LU16 81 10 43 599, peut convenir.
Stéphane.
Ben moi, je vais faire plus classique. Je partage évidemment l'avis de Christian, parce que ben moi, je suis quelqu'un qui fait de la finance au quotidien. Donc, je sais qu'investir en bourse à très long terme, parce que là, on parle de plutôt long terme, hein, 20, 30, 40 ans peut-être, ça, on le voit statistiquement, hein, ça a grosso modo toujours été gagnant, sauf très, cas très particuliers quand vous n'avez vraiment pas de chance. Je vais rebondir quand même sur votre question, Cédric, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le PER est quand même devenu un produit intéressant. Je ne vais pas faire le côté fiscal, parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans cette enveloppe. C'est que d'abord, c'est une enveloppe qui est spécifique pour la retraite, donc psychologiquement, ça aide les épargnants à bloquer de l'argent dans un seul but, qui est la retraite. Et c'est devenu très 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 important quand on voit l'état des caisses de retraite aujourd'hui. Le deuxième sujet du PER, et je le répète constamment, on en a déjà parlé sur ce plateau avec Christian, c'est qu'aujourd'hui, les notices financières, les options de ces outils sont devenues quasiment aussi efficaces qu'une assurance vie multi-support. Donc en fait, on fait de la vraie gestion financière lorsqu'on fait un PER. Donc on rejoint indirectement ce que disait Christian, c'est qu'on peut donner de l'efficacité financière à un produit qui avait jusque-là qu'un avantage fiscal et qui vous mettait la pression pour la retraite. Donc c'est un outil que je trouve très complet. Maintenant, pour finir, je suis obligé de défendre mon petit bébé depuis toujours, et je le défendrai toujours, parce qu'on ne m'enlèvera pas de l'esprit que pour faire un bon placement pour la retraite, il faut investir
dans l'immobilier. Cédric, je vous vois, il me regarde, il est plus surpris. Parce qu'en fait.
Non, c'était interdit par Christian.
Non, mais à fortiori. Non, pas la résidence, pas que la résidence principale. Peu importe. Investissez dans l'immobilier, dans le contexte actuel. Les marchés vont pas très bien. Il y a énormément d'inflation. Il y a beaucoup de volatilité. Les taux, Christian l'a rappelé, même s'ils sont montés ces derniers temps, on est passé d'une situation extrêmement favorable à une situation favorable. Continuons aujourd'hui à faire de l'immobilier. Les loyers s'alignent, preu ou prou, pour reprendre l'expression de Christian, sur l'inflation. Les taux restent bien inférieurs à l'inflation. Donc, si vous fixez votre taux aujourd'hui et que vous en avez pour 20 ans devant vous ou 25 ans, parce que vous avez 40, 45 et vous n'y avez pas pensé, bah le ou les biens immobiliers que vous aurez pu acquérir lorsque vous arriverez à la retraite, bah vous toucherez à ce moment-là des loyers. Si vous poussez un peu le bouchon, vous faites du meublé, vous faites du démembrement et vous pouvez optimiser tout ça fiscalement. C'est aussi un vrai couteau suisse, comme l'assurance vie, le PER, le PEA. Il y a plein de bonnes solutions. De toute façon, préparez votre retraite quoi qu'il arrive.
Et épargnez.
Et par
150 balles par mois,
si vous pouvez à 25 ans.
600, merci. 150 balles égale 600 000 euros à 65 ans, à un taux d'épargne significatif.
Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu, Stéphane Van Uffel pour Net Investissement. On vous retrouve en fin d'émission.
Avec grand plaisir.
Pour répondre
avec
aux questions des auditeurs, n'hésitez pas à écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Dans un instant, un petit détour sur les marchés. Le CAC est en baisse d'un 32%. Vous n'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur notre site ou sur vos plateformes préférées.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.